7h30, c'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Combien de temps l'économie mondiale pourra-t-elle tenir le choc face à la guerre en Ukraine? 3 mois de conflit et déjà un impact majeur sur les prix et les pénuries. La question est au cœur du forum économique de Davos qui s'ouvre ce matin. Nous y serons dès le début de ce journal. Au procès des attentats du 13 novembre, la démarche inédite des avocats des partis civils. Leur plaidoirie commence aujourd'hui et pour éviter l'embolie, ils se sont organisés pour les regrouper. Dans ce journal aussi, la bataille de succession à la tête de LR, un drame évité de justesse entre 2 avions Rafale et des œuvres de Rosa Bonheur présentées pour la première fois en France. Grande rétrospective à Bordeaux à l'occasion du bicentenaire de sa naissance.
Et notre invité dans 20 minutes à 7h50, c'est tout simplement l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire. Il entre en lice aujourd'hui à Roland-Garros, l'Espagnol Rafael Nadal. Au micro d'Alexandra Ben Saïd dans 20 minutes.
France Inter.
Les grands patrons retrouvent les Alpes suisses, mais sans la neige cette année.
Et le forum économique de Davos s'ouvre aujourd'hui après 2 ans d'annulation pour cause de Covid et un décalage, oui, de quelques mois de janvier à mai en raison de la dernière vague Omicron. Le décor a donc un peu changé, mais moins que le contexte, la guerre en Ukraine et ses conséquences majeures et multiples pour l'économie mondiale. Les Russes sont persona non grata à Davos, mais des représentants ukrainiens sont déjà arrivés sur place. Laurent Kramer aussi.
Dans la petite ville de Davos, bunkerisée pour ces 4 prochains jours, une délégation d'une 50aine de parlementaires ukrainiens est venue rappeler au monde économique de jouer le jeu des sanctions sans chercher à les contourner, souligne Ivana Klempouch-Tinsadier, parlementaire ukrainienne.
Je suis reconnaissante que Davos se concentre sur un pays en guerre. Les dirigeants économiques ont une responsabilité. Ils doivent obéir aux sanctions contre la Russie et ne pas à faire de lobbying pour les contourner. Le sang des Ukrainiens sera clairement sur ces profits qu'ils cherchent à réaliser.
Davos n'est plus à la fête et cherche des solutions. La guerre en Ukraine a fait plonger l'économie mondiale dans une incertitude totale, explique Bob Wardrop, professeur d'économie à l'université de Cambridge.
Je suis à Davos parce que nous sommes dans une période de transition, d'incertitude géopolitique, économique pour les 5 à 10 prochaines années. Sommes-nous en train de militariser le système financier? Voilà quelque chose qui n'était pas du tout dans les tuyaux jusqu'ici. Je crois que beaucoup de monde vient à Davos cette année pour comprendre où est-ce que nous allons.
En ouverture de ce Forum économique mondial 2022, le président ukrainien prendra la parole ce matin.
Oui, Volodymyr Zelensky doit s'exprimer en visioconférence à partir de 11h. Demain, cela fera 3 mois pile que les Russes ont entamé leur offensive en Ukraine. D'abord dans tout le pays, avant de se concentrer sur l'Est, le Donbass, bombardé sans relâche à l'image ce week-end de la ville de Severodonetsk, l'une des dernières poches de résistance. Selon le gouverneur local, de nouvelles unités sont en train d'arriver, en provenance notamment de Mariupol. Maintenant que la ville portuaire et son aciérie Azovstal sont complètement tombées aux mains des Russes, depuis une semaine sur ce site, 2500 soldats ukrainiens se sont rendus. Parmi ces derniers irréductibles, le père d'une jeune femme rencontrée par Valérie Krova.
Bientôt 3 mois qu'elle n'a pas revu son père, colonel dans l'armée ukrainienne, plusieurs fois décoré, Herman Kotelnikov, s'est retranché dans le site d'Azovstal dès les premiers jours de l'occupation de Mariupol, sa ville natale.
Mon père a fait beaucoup de guerres. Il a fait son service militaire en Irak, puis il est allé dans le Donbass en 2014. Quand il s'est retrouvé à Azovstal, il m'a appelé, il m'a dit « c'est terrifiant ».
Alors qu'il vivait sous les pilonnages incessants de l'armée russe, son père a réussi à lui envoyer quelques photos.
Il a beaucoup maigri, il ne mangeait qu'une fois par jour. C'était de la bouillie avec de l'eau. J'ai supprimé certaines photos car je ne peux pas les regarder. Ça me fait trop mal. C'était un homme grand, majestueux. Maintenant, il n'a plus que la peau sur les os.
Anya a vécu la reddition des derniers combattants d'Azovstal comme un soulagement. Mais elle s'inquiète du sort qui leur sera réservé après qu'ils ont été transférés par les forces russes à Novoazovsk, dans le Donbass occupé.
J'aimerais qu'on les échange contre d'autres prisonniers, car ils ont déjà trop souffert, sans rien à manger, sans leurs proches.
Il n'y a pas de pardon possible pour ceux qui sont de l'autre côté de la frontière, conclut Anya, décidée à prendre la relève pour défendre sa terre.
Valérie Crova et Laurent Macchietti, envoyés spéciaux d'Inter en Ukraine. C'est une première depuis près de 20 ans. La patronne de l'ONU pour les droits de l'homme sur le sol chinois, Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies pour les droits humains, entame aujourd'hui une visite de 6 jours en Chine qui passera notamment par le Xinjiang où le régime chinois est accusé de réprimer sévèrement la minorité ouïghour. Les ONG redoutent un déplacement pour rien, une mise en scène. Nous serons à Pékin dans le journal de 8 heures.
Après 8 mois d'audience, Alexis, le dernier chapitre s'ouvre aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre.
Avec les plaidoiries, puis le réquisitoire et le verdict, les avocats des parties civiles commencent à plaider aujourd'hui, ça va durer plusieurs jours. Ils sont plus de 300 à représenter les victimes des attaques. Alors pour éviter l'embouteillage, il a fallu s'organiser et penser collectif. Certains vont donc regrouper leurs plaidoiries de façon thématique. D'ailleurs, une centaine d'avocats ne prendront pas la parole et s'en remettront complètement à leurs confrères. Maître Frédéric Giffard sera la première à s'exprimer cet après-midi.
Moi, j'ai l'impression qu'on n'avait pas le choix. On devait forcément trouver quelque chose à faire de différent. On s'est rendu compte assez vite que si on plaidait de manière classique les uns à la suite des autres, on prenait quand même le risque de répéter et que toutes les histoires finissent par se dissoudre et que ça ne soit pas intéressant ni pour la cour ni pour les victimes elles-mêmes. Donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire d'autre. Il y a une particularité dans ce dossier, c'est que nos clients sont des victimes de hasard et que il y avait des choses qui étaient visées à travers eux qui sont plus de l'ordre de valeurs, de symboles. Et donc on a essayé de trouver une forme dans laquelle on parle à la fois de la personne de nos clients, mais on parle aussi de ces valeurs, de ces symboles qui ont été visés. Et on espère que les parties civiles se retrouveront dans l'une ou l'autre de ces plaidoiries.
Frédéric Giffard au micro de Charlotte Piret. Le verdict est attendu le 29 juin. Certains connaissent bien le chemin. Pour d'autres, ce sera une première. À 10h ce matin, le premier conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne. Une nouvelle photo de famille, très provisoire, car les ministres battus aux législatives en juin devront quitter leur poste. Et l'un d'entre eux concentre déjà toute l'attention. Damien Abad, à peine nommé le transfuge de la droite, est visé par des accusations de viol. Deux femmes ont témoigné auprès de Mediapart. Selon le site d'information, des signalements avaient été envoyés avant sa nomination à La République En Marche et à LR. Les deux partis assurent ne pas les avoir vus passer à temps. Les Républicains qui préparent la succession. Christian Jacob va passer la main après les législatives à la tête du parti. Et si Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Éric Ciotti ou Bruno Retailleau ne sont pas candidats au scrutin du mois de juin, c'est aussi parce qu'ils ont cette autre ambition, Anne Souhaitemont, s'emparer de la chefferie.
Depuis des mois, Laurent Wauquiez fait tout pour être discret, se préserver médiatiquement tout en semant de petits cailloux. La semaine dernière, il fait parler de lui en s'opposant au maire de Grenoble sur la question du burkini. Briguera-t-il pour autant la présidence du parti ? Possible, mais la question ne se posera qu'après les législatives, insiste son entourage. Autre prétendant, Éric Ciotti, arrivé en tête de la primaire. Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, mais irait-il contre Laurent Wauquiez ? A priori non. Le député Julien Aubert, lui, en a très envie, comme le jeune Aurélien Pradier, classé à la gauche de la droite. Mais plus que le nom du futur patron, c'est la question même de l'avenir du parti qui se pose. La jeune génération LR n'hésite pas à le dire, il faut tout changer, ligne, tête, nom aussi. Pourquoi pas les populaires, s'interroge Aurélien Pradier. Certains envisagent même de dépasser le parti. Au lendemain des législatives, on va regarder si on peut bâtir quelque chose qui ne soit pas la ligne Ciotti-Wauquiez, confie un haut responsable tendance centre-droit. Les LR ont donc beau avoir fait moins de 5% à la présidentielle, ils sont toujours aussi divisés.
6000 impacts de foudre en moins de 3 heures, des grêlons gros comme des balles de tennis, nuit très orageuse dans l'Indre et le Cher et pas mal de dégâts constatés ce matin, surtout autour de Châteauroux notamment, dans la préfecture de l'Indre. 250 maisons et 1 000 000 de véhicules sont touchés selon la première estimation du maire. Un drame évité de justesse hier en Charente. 2 avions Rafale se sont touchés lors d'un meeting aérien à Cognac. C'est rarissime, du jamais vu depuis 2010. L'un des appareils a même perdu un morceau de sa dérive sur un village des environs, Julien Fleury.
Le maire de Jansac, Bernard Mosé, était aux premières loges, habitant à 30 mètres seulement de l'impact du plus gros débris. L'élu décrit un double choc assez violent vers 12h40. La pièce tombe d'abord sur le rebord d'une toiture avant de rebondir au milieu de la chaussée. Dégâts matériels limités et surtout personne n'a été blessé. Si c'était tombé sur quelqu'un, ça aurait pu être dramatique, souffle le maire. Certains ont pu voir la pièce tomber depuis leur piscine, ajoute-t-il avant de confier. Rétrospectivement, ça fait très peur. Bernard Mosé, habitué comme tous ses voisins voisin aux nuisances de la base située à 4 km à vol d'oiseau. On sait qu'en meeting, les pilotes prennent des risques, mais ce qui est arrivé n'est pas acceptable, assure le maire, qui attend maintenant des réponses. Au moment de l'accident, l'un des appareils est passé sous l'autre de façon bizarre, raconte encore Bernard Mauzet. Dès le début d'après-midi, la gendarmerie de l'air était sur place pour récupérer les deux débris tombés sur le hameau des Gascars, et c'est maintenant le bureau enquête accident pour la sécurité de l'aéronautique de l'État, le BEAE, qui devra faire la lumière.
Les précisions de France Bleu La Rochelle.
Elle a peint les chevaux, les chiens et les lions comme personne.
Direction Bordeaux pour une grande rétrospective de l'œuvre de Rosa Bonheur, cette peintre animalière du 19e siècle, première artiste femme à recevoir la Légion d'honneur. À l'occasion du bicentenaire de sa naissance, le musée bordelais des Beaux-Arts présente 200 de ses œuvres, pour certaines jamais exposées en France, Isabelle Pasquier.
Rosa Bonheur a tout osé et tout réussi. Dans ce 19e siècle bien macho, en pantalon et coupe garçonne, elle est devenue une star mondiale avec ses toiles au format gigantesque qui redonnent à des vaches, des chevaux et des chiens plus de noblesse qu'aux hommes. Sandra Burletti-Hassan, co-commissaire de l'exposition.
C'est surtout la façon qu'elle a de créer un pont entre le monde animal et le monde humain. Il y a dans les regards surtout une passerelle vers une autre humanité en fait, et vers la diversité du vivant dans son ensemble, et puis peut-être cette inquiétante étrangeté qui caractérise les autres vivants qui sont autour de nous.
Fascination devant cet immense cerf, ces bœufs du labourage nivernais, et face au marché aux chevaux, avec leurs regards affolés, avec un réalisme presque photographique, Rosa Bonheur capte leur âme. Et dans l'exposition, un trésor, un immense dessin découvert dans le grenier du château de Bille à Thomery.
Lors du premier confinement, les propriétaires du château de Rosa Bonheur ont retrouvé une toile roulée, un dessin préparatoire pour le grand chef-d'œuvre de Rosa Bonheur, qui est le marché aux chevaux. C'est un dessin qui est complètement inédit, c'est certain, il y a sans doute encore beaucoup à découvrir.
Femme tellement libre, homosexuelle, Rosa Bonheur, féministe et amoureuse du monde animal, a su révéler l'âme et la voix de celles et ceux qui n'en avaient pas.
Rosa Bonheur au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, c'est jusqu'au 18 septembre, Jérôme.
Merci à vous Alexis Morel. L'édito politique est à suivre.